Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue au podcast pour la route. Le sujet d'aujourd'hui en est un que je vois souvent revenir dans les groupes Facebook de van life, surtout au Québec parce que c'est un gros enjeu pour nous au Canada avec l'hiver. Et le sujet du jour, c'est est-ce que c'est possible de vivre dans une van, dans un VR au Québec à l'année? Sans nécessairement quitter le Québec et d'être des snowbirds comme la majorité des gens qui habitent dans une van ou dans un VR vont faire en général. De mon côté, j'ai l'expérience de l'avoir fait pendant quelques années. J'ai fait aussi l'expérience de le tester avec des véhicules qui n'étaient pas adaptés du tout à nos hivers. On l'a testé, Val et moi, avec notre première roulotte, la Micro Mini, qui était une roulotte de Winnebago, qui était aucunement conçue pour être utilisée en hiver. On l'a fait, mais pas à temps plein. On l'a juste utilisé pour quelques week-ends. On est allé, entre autres, faire du ski chez mon frère à Sutton avec notre Micro Mini. Puis on a vite compris que c'était une autre paire de manches d'utiliser un VR en hiver. Il y a plein de nouveaux enjeux qu'on n'a pas en été à avoir à gérer. Entre autres, le premier élément qui me vient en tête, c'est la condensation. Ça a été le premier élément qui nous a confrontés pendant ce week-end-là parce que c'est pas très long que dans un véhicule qui n'est pas bien isolé, lorsqu'il fait froid dehors et chaud à l'intérieur et qu'il n'y a pas une bonne isolation entre les deux comme il y a dans une maison ou dans un appartement qu'on aurait chez nous au Québec, ben il se crée de la condensation, autant de la visible que de la condensation invisible à l'intérieur des murs. Ça ruisselle le long des fenêtres et après ça, ça vient couler à des endroits où on ne voudrait pas. Donc, on s'est vite rendu compte de ça avec notre première roulotte, la Micro Mini. Ensuite, on l'a vécu aussi avec notre Airstream qui n'était pas plus adapté à l'hiver. L'Airstream, elle, on a vraiment vécu dedans pendant quelques mois. Ben, je dirais quelques semaines, du moins, on était parti. Entre autres, on l'a acheté en octobre. On avait vécu dedans les mois d'octobre, novembre et décembre. On avait quitté juste après les fêtes vers la Floride avec l'Airstream. Puis encore une fois, ben, on a compris rapidement que c'était pas un véhicule qui était adapté à nos hivers. Encore une fois, des problèmes de condensation, des problèmes de pont thermique aussi. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on va effleurer aujourd'hui. Tous les enjeux de vivre en van ou en VR au Québec pendant l'hiver. Après ça, ben, avec toute cette expérience-là, ben, nous, on a construit notre Lucky Base Camp qui était conçu vraiment pour ça. Mais malgré tout, il y avait quand même des enjeux et c'était pas facile à vivre à temps plein. Donc, le but de mon podcast d'aujourd'hui, c'est un peu de vous donner l'heure juste par mon expérience, puis qu'est-ce que je crois qui est un véhicule qui est plus adapté à le faire. Mais malgré tout, je vous vends le punch tout de suite en commençant. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est la meilleure des idées de vivre en van. Ça finit par coûter quand même assez cher à cause de toute la perte d'énergie. Ça prend un véhicule qui va coûter cher pour réussir à bien vivre en hiver. Mais il y en a quand même qui le font puis qui réussissent à bien vivre malgré tout avec ces petits enjeux-là. Fait qu'aujourd'hui, on va faire le tour de tout ce sujet-là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous parle de notre commanditaire qui est justement très utile en hiver parce que ça nous permet quand on est en hiver, on va passer un peu plus de temps à l'intérieur de notre véhicule parce que la température est froide, il fait noir plus tôt. Et qu'est-ce que ça amène? Ben, ça amène plus de soirées cinéma sur notre ordi. Des fois, on a l'impression d'avoir fait un peu le tour du catalogue de Netflix et de nos différentes applications où on regarde nos émissions de télé et nos films. Grâce à un VPN comme celui de notre commanditaire Surfshark, on peut changer notre localisation de notre adresse IP de notre ordinateur et la mettre dans un autre pays, ce qui nous donne accès à un tout autre catalogue, autant sur Netflix que sur les autres applications. Ça peut aussi nous permettre, lorsqu'on est hors du Québec, d'avoir accès à nos sites web de postes de télé du Québec qui ne sont normalement pas accessibles. Donc, on fait juste choisir le serveur qui est à Montréal et ça nous permet de regarder nos émissions. Nous, on le fait justement cet hiver. On regarde Big Brother et bientôt, ce sera le retour de Survivor sur nouveau qu'on utilise. Ce qui est intéressant avec le VPN de Surfshark, c'est que vous pouvez utiliser votre même compte pour tous vos appareils, donc que ce soit les iPads, les ordi, les téléphones. Vous pouvez utiliser votre même compte Surfshark et le partager avec tous vos appareils. C'est idéal quand vous avez une famille avec plein de monde qui veulent utiliser le VPN en même temps. C'est possible de le faire. Puis ça peut même vous servir, je m'en ai servi dernièrement, quand on achète des billets d'avion, entre autres quand j'ai acheté ceux de ma mère qui est venue nous rejoindre au Mexique. Quand on magasine nos billets d'avion, à chaque fois qu'on retourne sur les sites web, souvent les prix vont se mettre à monter. Donc, en utilisant le VPN, on peut changer notre adresse IP, puis ça nous permet de ravoir toujours le prix le plus bas. Même chose au niveau des hôtels et même au niveau des billets de spectacle et des campings dans certains cas, avec une tarification dynamique, bien, ça nous permet de sauver de l'argent sur nos achats. Puis Surfshark, bien, ça vient avec Surfshark One qui contient entre autres un antivirus, donc très, très intéressant, surtout sur la route. On est souvent sur des réseaux qui ne sont pas sécurisés, donc il y a plus de danger de se faire attaquer par des virus ou des malwares dans nos ordis. Et avec Surfshark One et l'antivirus, bien, ça nous permet de faire des scans rapides ou des scans complets. On peut en programmer d'avance, puis ça peut nous permettre de garder nos ordis très propre pour ne pas avoir de virus. Sécurisez votre vie privée avec le VPN Surfshark. Entrez le code promo Alexandre et Valérie pour obtenir 3 mois gratuits lors de votre abonnement. Tous les détails et le lien se trouvent dans la description. On retourne à notre sujet du jour. Premier gros enjeu que vous allez retrouver si vous voulez vivre en VR en hiver, et c'est la gestion de l'eau. Premièrement, l'enjeu, c'est d'en trouver pour pouvoir remplir notre réservoir. Ça a été quelque chose qu'on a réalisé assez rapidement. Les premiers moments qu'on avait passés avec la Micro Mini et l'Airstream, quand on avait été faire du ski chez mon frère ou qu'on vivait dans l'Airstream, on était stationnés chez des membres de la famille. On avait gardé nos véhicules hivernisés, donc de l'antigel dans nos tuyaux. Donc, il n'y avait pas de danger au niveau de l'eau pour pas que ça gèle et que ça brise nos tuyaux, parce que si votre VR n'est pas isolé et conçu pour une utilisation hivernale, ben vos tuyaux vont geler. Même si vous gardez ça au chaud, il y a des tuyaux, souvent les réservoirs sont en dessous du véhicule, il y a des tuyaux qui passent dans le plancher où il n'y a pas d'isolation nécessairement, donc l'eau va geler, va faire gonfler les tuyaux, va faire éclater les tuyaux. Donc aussitôt qu'on passe à peu près moins 5 degrés Celsius, si on n'a pas de chauffage à l'intérieur, même avec du chauffage, en fait, on va probablement avoir des bris au niveau de la plomberie qui vont être durs à trouver après ça, parce qu'ils essaient de trouver c'est d'où que ça peut provenir une infiltration d'eau. C'est pas évident. Fait que ça, c'est un des premiers enjeux. Mais nous, dans notre cas, étant donné qu'on l'utilisait en étant stationné chez la mère de Val ou chez mon frère, on pouvait prendre nos douches et cuisiner dans la maison sans avoir à utiliser l'eau dans le véhicule. Mais quand on est sur la route ou qu'on n'est pas chez nous ou chez quelqu'un qui peut nous permettre de faire ça et qu'on veut de l'eau, il faut la trouver, parce que l'hiver, il n'y a pas de dump station qui sont ouvertes où on peut remplir notre réservoir. Il n'y a pas d'endroit où c'est possible de se remplir comme on le fait en été. Les campings sont fermés. Ça a été un gros enjeu quand on a fait notre premier voyage dans l'Ouest avec le Lucky Base Camp, qui lui était conçu pour ça. Même si on avait un véhicule qui était conçu pour avoir de l'eau même en hiver, on n'était pas capable de remplir notre réservoir. Je me souviens, pendant quelques jours, on arrêtait un peu partout. On essayait de trouver toutes les dump stations. Les robinets étaient fermés, les dépanneurs. Il n'y avait pas d'endroit où on était capable de remplir. Je pense qu'on avait réussi à se remplir avec de l'eau qui n'était pas potable dans un lavoto. Et de ce que j'ai pu voir, parfois les pompiers peuvent avoir de l'eau, ils vont nous l'offrir, mais reste que ça, c'est une solution de dernier recours, là. C'est pas, je vous dis pas d'aller déranger tous les pompiers tout le temps pour aller remplir vos réservoirs en hiver. C'est pas une bonne idée. Fait que ça, c'est un gros enjeu. Dans l'Ouest canadien, on a vu à deux endroits, il y avait dans les parcs nationaux de Banff et de Jasper, si je me souviens bien, eux autres avaient des petites stations avec des boîtes où c'était chauffé et ça permettait de garder l'eau ouverte en hiver pour le camping. Fait que ça a été une des belles solutions qu'on a pu retrouver. Donc, on a passé du temps quand même pas mal dans ces campings-là, justement, pour avoir accès à de l'eau. Fait que ça a été intéressant. Sinon, au Québec, je sais qu'il y a le camping Le Genévrier à Baie-Saint-Paul. Il y en a quelques-uns qui sont ouverts. Je ne sais pas, par contre, la situation au niveau des eaux, mais je présume qu'ils doivent avoir un endroit où on peut quand même remplir des bidons. Nous, ce qu'on utilisait comme technique, c'est que j'avais un bidon extérieur au véhicule que je pouvais aller remplir, exemple, dans une salle de bain, puis après ça, aller remplir mon véhicule. Mais c'était une tâche quand même assez fastidieuse et ça prenait du temps. Et c'était pas l'idéal, là, vraiment, pour remplir un réservoir de 100 litres. Ça prend beaucoup d'aller-retour de bidon. Puis surtout, si tu veux prendre des douches à l'intérieur et cuisiner, ça gaspille beaucoup d'eau. Fait que c'était pas une solution qui était très, très idéale. Puis ça, ben, c'est considérant qu'on avait un véhicule qui était vraiment adapté à ça. Si vous n'avez pas un VR qui est vraiment isolé 4 saisons, ça ne sera pas possible d'avoir de l'eau pendant l'hiver dans votre véhicule, parce que sinon, vous allez avoir des bris. Il existe des kits, là, j'ai déjà vu des genres de trucs d'isolant qu'on peut mettre autour du véhicule puis se faire comme une genre de jupette. puis empêcher la circulation d'air en dessous du véhicule, puis garder une chaleur aussi à l'endroit où on a nos tuyaux. On peut vraiment faire une grosse job. Je sais qu'entre autres, les vadrouilleurs Forever sur YouTube ont fait une grosse job pour tout isoler leur véhicule, envoyer du chauffage partout dans les soutes où il y a des tuyaux qui passent. Bref, il y a des moyens d'améliorer votre véhicule, mais ça reste un enjeu. Même nous, avec notre Lucky Base Cam qui était vraiment bien isolé, on avait quand même parfois des tuyaux qui passaient proche d'un mur et qui ont fini par geler. Donc, il a fallu les isoler comme il faut, ces tuyaux-là. Bref, ça a été beaucoup de travail pour réussir à être capable de maintenir de l'eau par temps très froid. Là, cet hiver, ça n'a pas été si mal parce qu'il n'a pas fait si froid que ça. Nous, quand on l'a utilisé, on a eu des froids jusqu'à moins 30, même moins 33. Dans ce temps-là, ça prend énormément d'isolation et de chauffage pour réussir à garder de l'eau sans avoir des bris à l'intérieur. Puis après ça, bien, il y a la gestion aussi des eaux sales, parce que là, en hiver, les dump stations ne sont pas accessibles ni dans les campings, ni dans les municipalités. J'ai vu quelques municipalités où la dump station restait quand même, où bien, le trou était encore là et accessible si on est prêt à pelleter ou à casser de la glace pour y avoir accès, parce que j'ai déjà dû le faire. Mais par contre, il n'y a pas d'eau après ça pour rincer ton tuyau d'égout si tu as un tuyau d'égout. Fait que nous, ce qu'on avait dans notre Lucky Base Cam qui était utilisable en hiver, on avait juste un réservoir d'eau grise qui était un réservoir juste qu'on utilisait juste pour de l'eau sale, dans le fond, de l'eau de vaisselle ou de l'eau de douche. Donc, c'était pas de l'eau qui était dégueulasse. Donc, on la vidait tout simplement près des arbres ou dans le gazon ou dans la neige tout simplement quand on avait l'occasion. Pour ce qui est des eaux noires, par contre, bien, si vous avez un réservoir d'eau noire, il va falloir le condamner, puis soit utiliser une autre toilette, soit une toilette portative. Exemple, les toilettes avec des petits réservoirs qu'on peut vider dans une autre toilette au lieu d'aller dans une dump station, ou des toilettes compostables. Nous, c'est ce qu'on utilisait dans le Lucky. Fait que ça, c'était l'idéal pour l'hiver. Parce que sinon, bien, c'est ça, il n'y aura pas d'endroit où vous allez pouvoir vidanger. Fait que ça vous prend une solution alternative à ce niveau-là. Trouver des emplacements, c'est un enjeu qui est un peu différent de ce qu'on va avoir en été. L'été, souvent, c'est que l'enjeu, c'est que les spots sont soit remplis de monde déjà quand on arrive, soit les campings sont pleins pendant la haute saison. Bien, en hiver, il n'y a pas beaucoup de monde qui font du camping en hiver, donc les endroits où c'est permis de passer la nuit sont souvent libres, il n'y a jamais personne. Ou quand il y a des campings, nous on était au camping de Banff à Tunnel Mountain, qui est un des plus beaux campings du parc national, probablement le camping le plus populaire du Canada en hiver, en été, mais en hiver, on y était presque seul avec la nature, avec les animaux, c'était magnifique, c'est une de mes plus belles expériences de camping, ce camping-là en plein hiver. Mais il y en a pas beaucoup des campings ouverts pendant l'hiver. Ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur, le mouvement, parce que de plus en plus de gens utilisent leur véhicule en hiver, mais il y en a pas des tonnes. Puis les options sont limitées. Puis les spots de boondocking qu'on utilise, soit en nature, souvent sont pas accessibles en hiver, ou souvent on peut pas y rester pour la nuit parce que des fois il y a du déneigement qui va se faire, puis il faut pas qu'on soit dans les jambes du déneigement. Fait que bref. C'est faisable de trouver des emplacements. Parfois, c'est même plus facile, je dirais, parce qu'on est seul, mais parfois, puis en même temps, il y a moins de gens, il y a personne qui surveille, il y a personne qui s'attend à ce que quelqu'un dorme dans le véhicule quand il est stationné à quelque part, donc c'est peut-être plus facile de passer inaperçu. Mais ça reste un enjeu quand même parce qu'il n'y a pas des tonnes d'options en hiver. Ensuite, au niveau de l'isolation, ça, on voit on dirait que ça me travaille à chaque fois que j'en vois parce qu'il y a tellement de constructeurs de véhicules qui profitent de cette mode-là du camping d'hiver pour dire qu'ils ont des véhicules qui sont isolés quatre saisons, puis ils vendent ça en faisant miroiter que c'est des véhicules qu'on peut vivre dedans à temps plein pendant quatre saisons, alors que c'est pas le cas du tout, ou du moins, si vous voulez vivre dedans à temps plein, vous allez avoir une usure prématurée, vous allez probablement créer de la moisissure à l'intérieur, vous allez probablement pas vivre très confortablement, mais vous allez pouvoir l'utiliser. Je pense que les véhicules qui se disent pour une utilisation quatre saisons, en général, c'est soit un quatre saisons des États-Unis, même plus vers le sud, ou c'est peut-être un quatre saisons, mais occasionnel, pour un week-end de temps en temps, où vous allez être les premiers sur la pente de ski. Ça, c'est très faisable avec différents véhicules. Même avec notre véhicule, le Safari Condo, qui n'est pas annoncé comme étant un quatre saisons, on l'a utilisé dans le temps des fêtes, nous, puis on peut dormir dedans, on peut vivre dedans quand même, mais c'est pas un vrai véhicule quatre saisons, du moins au Québec, il y a très peu de véhicules qui peuvent se vanter d'être des vrais de vrais quatre saisons dans lesquels on peut vivre confortablement, utiliser l'eau et ne pas endommager le véhicule à long terme. Puis ça, c'est peut-être ce que les gens sous-estiment, mais le fait que les véhicules, pensons juste à une vanne comme on est présentement à l'intérieur, même si on l'isole très bien, reste que les portes et fenêtres à l'avant ne sont pas bien isolées, c'est pas des fenêtres en verre double, il y a beaucoup de perte de chaleur qui va se faire vers ces fenêtres-là. Même si vous avez des belles fenêtres très bien isolées que vous rajoutez à l'arrière du véhicule, reste que les trois fenêtres à l'avant, le pare-brise puis les deux fenêtres de côté, les fenêtres qui peuvent être dans les portes ou les fenêtres installées d'origine, c'est pas des fenêtres isolées pour l'hiver. C'est correct temporairement, mais quand vous allez passer quelques jours à l'intérieur, que vous allez prendre une douche à l'intérieur en hiver, vous allez vite voir qu'il y a une immense condensation. Vous allez vous lever le matin, ces vitres-là vont être toutes pleines de givre. Puis ce givre-là, pendant la journée, va fondre, va couler dans les murs, va éventuellement faire de la moisissure. Puis ça, c'est de la condensation qui est inévitable. Même si on a une bonne circulation d'air, on n'a pas le choix de dealer, de vivre avec cette condensation-là. Puis c'est vraiment le plus gros enjeu du camping hivernal, c'est de réussir à garder un air sec à l'intérieur. On n'a pas le choix d'utiliser notre fan de plafond, d'ouvrir une fenêtre pour faire un courant d'air, mais on s'entend que quand il fait moins 30, c'est un peu contre-intuitif parce que là, on combat le froid avec notre chauffage qui est dans le piton. Souvent, l'idéal, ça va être avec un chauffage diesel de type Webasto ou Espar ou ce type de chauffage-là qui va nous permettre de garder quand même une température confortable, même avec cette circulation d'air-là qu'on n'a pas le choix de faire parce que sinon, ça va devenir plein de condensation et d'humidité puis on risque d'endommager notre véhicule. Puis là, ben, quand ça va ruisseler cette eau-là dans les murs, ça va venir se loger dans le plancher. Si vous avez un plancher qui est fait en bois, exemple, ben, ça va finir par pourrir, ça va ramollir votre plancher. Fait que ça cause des dommages à long terme de l'utiliser en hiver. Il y a différents matériaux, exemple des armoires en mélamine vont peut-être finir par absorber de l'eau, vont commencer à gonfler, à gondoler, fait que ça va briser ça aussi. Si vous avez des vis qui ne sont pas des vis en stainless, ils vont commencer à rouiller. Il y a plein d'enjeux comme ça qui viennent avec le froid à l'extérieur et une isolation déficiente à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a aucun véhicule qui sera jamais assez bien isolé pour vraiment avoir zéro pont thermique. Parce que ça aussi, les ponts thermiques, quand un véhicule qui est en tôle, en aluminium ou en acier, peu importe le type de matériau avec lequel c'est fait, le froid va pénétrer dans ce métal-là puis va suivre les ponts thermiques. S'il y a quelque chose qui est vissé dans cette tôle-là, le froid va continuer son chemin jusqu'à l'intérieur, puis après ça, va faire de la condensation à l'intérieur. Fait que c'est très, très difficile à gérer, puis je pense pas qu'il y a beaucoup de véhicules qui peuvent vraiment se vanter d'être des vrais, de vrais quatre saisons. Je pense que l'idéal, peut-être, c'est d'avoir une coque à l'extérieur en fibre de verre ou en fibre de carbone pour les plus hautes gammes, comme exemple les Earthroamer. Tu vas avoir aussi des Bigfoot, des campeurs portés de Bigfoot ou des Northern Light qui sont des coquilles en fibre de verre qui vont te permettre d'avoir aucun pont thermique. Puis après ça, quand cette coque-là est bien isolée, là, c'est un véhicule qui peut être utilisé en hiver. Mais malgré tout, ces véhicules-là n'ont pas nécessairement des taux d'isolation très, très forts. Puis souvent, il va y avoir beaucoup de pertes de chaleur. Puis c'est des véhicules qui vont avoir des chauffages, bien, peut-être pas le Earthroamer, mais les Bigfoot et les Northern Light vont avoir un chauffage au propane. Puis les bonbonnes de propane vont passer en 3-4 jours. Fait qu'il va falloir remplir du propane à tous les 3-4 jours. Ça coûte cher de chauffage. Puis nous, même pour l'avoir vécu avec notre Lucky Basecamp, qui était très bien isolé, bien, vu qu'on avait une coque en aluminium, on avait cet enjeu-là de pont thermique. Et ça gaspillait quand même du diesel à long terme. Il faut prendre ça en considération dans les coûts de la vie parce que le diesel, c'est pas donné. Puis ça n'en consomme pas énormément, mais à long terme, 24 heures sur 24, à le chauffer tout le temps. Parce que si tu veux garder de l'eau à l'intérieur, il faut que le chauffage run 24 heures sur 24 tout le temps. C'est un enjeu. Puis après ça, bien, si ton chauffage il lâche pour quelconque raison, tu peux te retrouver rapidement avec des problèmes. Nous, ça nous est arrivé une fois qu'on a manqué d'essence sans s'en rendre compte pendant la nuit. On a manqué de diesel. Puis là, on s'est réveillé. On était obligé d'aller se remplir rapidement parce qu'en peu de temps, quand il fait moins 30, si tu n'as plus de chauffage, ben tu peux geler puis avoir des bris tout de suite de plomberie. Fait que il faut être très, très à l'affût de ça. Ensuite, l'autre enjeu, c'est l'énergie solaire. Parce que nos véhicules, si on veut être autonome en été comme hiver, bien souvent notre source d'énergie, c'est l'énergie solaire. En hiver, on oublie ça, l'énergie solaire. On va en avoir des petites miettes. Parfois, de temps en temps, on a des journées où il va faire soleil, puis on va avoir un petit peu d'énergie solaire. Mais le soleil, en hiver, surtout au Québec, il ne monte jamais vraiment à son zénith comme en été. Il va toujours être en angle, donc on n'aura pas des très bonnes performances avec l'énergie solaire. Nos panneaux solaires ne seront pas très, très efficaces. Puis souvent, bien, il va y avoir de la neige, de la glace qui vont les recouvrir. Fait que l'énergie solaire est presque nulle. On ne peut vraiment pas compter là-dessus en hiver. En plus, ben autant on a moins d'énergie qui rentre, ou du moins presque pas d'énergie qui rentre, ben on a beaucoup plus de consommation parce que là, on a un chauffage qui roule tout le temps. Donc, même si c'est un chauffage diesel, on a un fan qui pousse, on a un contrôleur, on a les lumières qui vont baisser. Le soleil, il se couche tôt, fait qu'on a besoin d'avoir plus d'éclairage pendant une plus longue période. Tout consomme plus en hiver. Puis les performances des batteries sont moins bonnes aussi avec le froid. Fait que tout ça fait qu'on a besoin de plus de batteries. Fait que bref, ça prend tout un kit pour être capable de vivre en autonomie en hiver. Fait que ça, c'est pas facile. Nous, on le fait, mais ce qui nous sauvait vraiment la vie, c'est le fait qu'on avait deux alternateurs sur le camion, puis ça nous permettait de recharger très rapidement les batteries aussitôt qu'on roulait un peu. Donc, en roulant quelques heures par jour, bien, ça venait recharger complètement nos batteries. On pouvait être autonome pour au moins 2-3 jours après ça. Fait que si on se déplace à toutes les 2-3 jours, ça va bien. Mais quand on veut être stationnaire à un endroit comme on le fait d'habitude en été, on pourrait passer des fois 2-3 semaines, un mois en étant autonome s'il fait soleil. Tandis que là, en hiver, bien, c'est impossible de faire ça. À moins d'être branché dans une prise d'un camping ou d'une prise d'une maison ou d'un commerce, mais sinon, autrement, c'est pas possible. Après ça, bien, il y a les dangers aussi de rouler en VR ou en van en hiver. Si vous avez une remorque, exemple une roulotte comme nous, on le faisait avec la Micro Mini ou l'Airstream, je ne m'aventurerais pas avec une remorque dans une tempête de neige parce que là, on n'a vraiment pas une bonne traction. On a un poids qui nous pousse derrière si on doit freiner d'urgence. C'est quand même plus dangereux d'avoir une remorque en hiver. Je sais qu'il y a des gars de la construction qui traînent leur remorque quand même pendant l'hiver, mais je pense pas que pendant une tempête, ils vont nécessairement s'aventurer sur la route. Puis eux, ils n'ont pas le choix parce que c'est leur travail, mais quand c'est pour le plaisir de voyager, c'est peut-être pas l'idéal. Puis après ça, bien, si vous avez une van ou un VR, bien, ça vous prend des pneus d'hiver, ou du moins des pneus qui sont approuvés pour l'hiver. Idéalement, ça vous prend un véhicule qui est 4x4 si vous voulez pas rester pris. Fait que ça, c'est un autre des enjeux à tenir en considération. Ma suggestion, je pense, si vous voulez vivre dans un VR pendant l'hiver ou dans une van, c'est de vous trouver un endroit où vous pourriez être stationnaire, un genre de camp de base où vous seriez capable d'avoir un branchement électrique pour au moins éliminer le problème d'autonomie électrique, d'avoir au moins un accès à un robinet extérieur qui pourra vous permettre de remplir votre véhicule si vous êtes capable si votre véhicule est isolé puis vous permet d'utiliser l'eau en hiver, mais d'avoir quand même accès idéalement à une toilette, une douche, une salle de bain. Je sais qu'il y a des gens que je connais qui l'ont fait en étant à leur travail, en se stationnant au travail où il y avait une toilette, une douche au travail, puis ils pouvaient se brancher leur véhicule, puis leur employeur leur permettait. Sinon, ben, c'est d'aller dans un camping qui est ouvert en hiver, comme nous, on l'avait fait dans l'Ouest canadien. Mais personnellement, je le recommande pas parce que c'est vraiment plus difficile à vivre. Quand on est en van ou en VR, on veut passer notre journée à l'extérieur. Le véhicule, c'est juste notre camp de base pour dormir, se faire à manger, peut-être travailler un peu. Mais le reste de la journée, on le passe à profiter de l'extérieur. Puis c'est un peu le but d'avoir une vie nomade puis de vivre dans un petit véhicule comme ça. Mais en hiver, il fait froid l'hiver, fait qu'on va passer peut-être une heure ou deux à jouer dehors. Mais après ça, on rentre. Puis les journées sont longues dans un petit espace comme ça. Fait que je pense que l'idéal, c'est peut-être d'en profiter au maximum, de passer quelques mois d'hiver peut-être à faire des stations de ski si vous tripez ski ou à faire vos activités hivernales que vous aimez. Puis après ça, bien, de passer le reste de l'hiver dans le sud, au chaud, c'est peut-être l'idéal. Ou de vous louer un appartement ou quelque part pour passer le reste de l'hiver. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de profiter de l'hiver en van. Moi, personnellement, je pense pas que je repasserai un hiver complet à vivre à temps plein dans un VR ou dans une van au Québec, personnellement, pour avoir eu l'expérience de le faire. Fait que voilà, si jamais vous avez des questions par rapport au sujet, je vous laisse le faire dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. On a plein de vidéos ou de belles expériences qu'on a vécues en hiver, fait que je pense que ça vaut la peine quand même d'exploiter notre véhicule de 4 saisons si vous êtes capable de le faire. C'est des belles expériences que vous pouvez vivre. Puis sinon, ben, ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Merci encore une fois à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. N'oubliez pas, si vous voulez avoir vos 3 mois gratuits, d'utiliser notre code promo Alexandre et Valérie, et le lien va se trouver dans la description. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!